Radio Kapi. Oh, Kapi.
Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au Nord Kivu, un calme précaire a été constaté ce vendredi matin sur différents axes de front, notamment à Kibumba, dans le territoire des Niragongo, et à Sake, dans le Massissi. Par ailleurs, les mouvements de retour timides de quelques déplacés de Sake qui avaient fui vers Goma s'est poursuivi malgré la méfiance qui gagne encore les habitants de cette cité. La situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans certains coins de la province du Kwango après l'attaque la semaine dernière des miliciens Mobondo du village États-Unis dans le secteur de Bukangalonzo. La société civile du Kwango appelle le gouvernement congolais à imposer la paix en mettant fin au phénomène Mobondo. L'invité de ce journal est le directeur provincial intérimaire de l'Office des routes au Sud Kivu. L'ingénieur Alain Mugangu parle de l'état de délabrement très avancé des routes nationales dans la province du Sud Kivu. Situation à la base de l'isolement total de la ville de Bukavu du reste des territoires. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, un calme précaire a été constaté ce vendredi matin sur différents axes de front, notamment à Kibumba, dans les territoires de Niragongo et à Sake dans le Massissi. Cependant, les autorités administratives de Kamuronza, dans les territoires du Massissi, affirment qu'une nouvelle bombe a été larguée à Sake vers 9h le matin par les rebelles et a blessé un enfant. Le M23, par ailleurs, a été repoussé par les forces loyalistes en profondeur des collines surplombant Sake, affirment nos sources. Par ailleurs, le mouvement de retour timide de quelques déplacés de Sake qui avaient fui vers Goma s'est poursuivi ce matin, même si une certaine méfiance gagne encore les habitants de cette cité. Et d'autre part, la Belgique s'est dit très préoccupée par la recrudescence de la violence dans l'est de la RDC. Cette violence s'ajoute à une situation déjà très difficile pour les populations de cette partie du pays en raison des exactions de nombreux groupes armés. Dans un communiqué de presse parvenu ce vendredi à Radio Kapi, la ministre belge des Affaires étrangères souligne, je cite, « Il faut que les groupes armés mettent un terme à ces violences. Le Rwanda doit cesser tout soutien au M23 ». Fin des citations. La même source ajoute que la solution à tout conflit, quelle qu'elle soit, n'est jamais militaire. Il faut que les efforts diplomatiques dans le cadre des processus régionaux soient aussi relancés. Aussi, la France s'est dit préoccupée par l'intensification des combats autour de Goma et ses graves conséquences humanitaires pour les populations civiles. C'est ce qui est indiqué dans un communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La France condamne avec la plus grande fermeté la poursuite des offensives du M23 ainsi que toute attaque contre la force de la MONUSCO, poursuit ce communiqué. Nous soutenons les efforts de tous les acteurs engagés en faveur du dialogue et de l'apaisement, conclut le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé à Goma, au Nord Kivu, ce vendredi, en vue de s'imprégner de la situation sur terrain, alors que les rebelles du M23 menacent plusieurs entités, notamment celle de Sake, à 27 km de Goma. Accueilli à l'aéroport international de Goma par le coordonnateur des opérations militaires, le général Falsi Kabwe, et le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, Jean-Pierre Bemba a eu une brève rencontre avec les responsables militaires de la MONUSCO avant de présider une réunion de sécurité au gouvernorat de province du Sud Kivu. Et puis, la situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans certains coins de la province du Kwango après l'attaque la semaine dernière des miliciens Mobondo du village États-Unis dans le secteur de Bukangalonzo où 7 personnes ont été tuées. Actuellement, ces assaillants se trouvent dans les territoires des Popokabaka. Ils ont placé des barrières à Ipongi et tracassent la population qui ne sait plus vaquer librement à ses occupations. Le cadre des concertations provinciales de la société civile du Kwango confirme cette information et appelle le gouvernement congolais à imposer la paix en mettant fin au phénomène Mobondo. Le point avec Irène Boma.
Selon le vice-président du cadre des concertations provinciales de la société civile du Kwango, la présence des miliciens Mobondo est signalée ces derniers temps dans différents coins de cette province, notamment vers Ipongi dans les territoires de Popokabaka, à la rive droite de la rivière Kwango où ils font la loi. La même source indique que ces assaillants y ont érigé des barrières et rançonnent les villageois qui ne savent plus se mouvoir librement pour vaquer à leurs occupations. Symphorien Kwango.
On peut facilement trouver ces gens-là dans la paroisse Ipongi, entre Ipongi et le territoire de Kimbula. Et ils ont même créé des barrières. Ils sont en train d'exiger des redevances. Et on dit, c'est la République des Mobondo. Ce sont les Mobondo qui font la loi là-bas. La population ne sait pas vaquer librement ses occupations, craignant les tueries, les menaces permanentes de Mobondo. Que l'État devrait imposer la paix, mais malheureusement, on se rend compte que le gouvernement ne fait presque rien de ce côté-là.
Ces miliciens Mobondo qui tentent d'avoir le contrôle des villages supplémentaires ont également érigé une barrière à l'entrée du village Kabouba non loin de la RN1 et tracassent les paisibles citoyens, a affirmé Maître Adela Nkissi, porte-parole du gouvernement provincial du Kwango. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, plus de 1000 ménages de déplacés, victimes des atrocités des groupes armés dans les territoires de Mahagi, vivent dans des conditions difficiles suite au manque d'assistance humanitaire. Ces déplacés vivent dans des salles de classe et des églises qui sont chaque fois obligées de libérer lors des cultes ou pendant que les élèves suivent des enseignements. Leur situation s'aggrave à cause de l'occupation de leurs entités par les miliciens de la Codeco, indiquent des sources locales. Les autorités coutumières tirent la sonnette d'alarme pour demander aux autorités ainsi qu'aux humanitaires de leur venir en aide. Des détails avec Ezekiel Moussalia.
La situation humanitaire reste préoccupante dans plusieurs entités du territoire de Mahagi suite à la présence des miliciens de la Codeco dans des entités à la limite avec le territoire des Djougou. Il s'agit notamment des villages Wala, Djalousene, Sirodrassi, Rovinga et Djoukote. De nombreux habitants ont été contraints de quitter ces milieux pour se mettre à l'abri des calvaires que ces hommes armés leur infligent depuis le début de cette année. Selon le chef de la chefferie des Djoukote, aucun mouvement retour jusque-là des déplacés n'est observé dans son entité malgré la signature par des leaders des groupes armés des accords de paix l'année dernière. Ali Pachou Lossani indique que cette situation crée des frustrations chez les déplacés qui ne savent plus à quel sens se vouer. Il indique que plus de 1000 ménages vivent dans des conditions difficiles dans le groupement Oumoya. Contraints de vivre dans des familles d'accueil, des écoles ainsi que des églises, ces personnes manquent de nourriture, de médicaments et d'abri. Ce chef coutumier appelle les autorités militaires à déloger ces miliciens des entités qu'ils occupent afin de permettre la relance des activités socio-économiques dans la région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, la pêcherie de Vichumbi à 140 km de la ville de Goma dans les territoires de Rutshuru enregistre une baisse sensible de la production. Cette situation affecte la vie socio-économique des habitants de cette enclave située en plein parc de Virunga qui ne vivent essentiellement que de la pêche. À cela s'ajoute la paralysie des activités en général dans les territoires de Rutshuru due à l'occupation des rebelles, ce qui rend Vichumbi plus isolé et dépourvu de tout. Nous en parlons avec Sifa Maguru qui revient de cette zone.
La population de Vichumbi qui vit essentiellement de la pêche traverse actuellement un calvaire. Entre autres facteurs qui expliquent cette situation, la baisse sensible de la production de poissons enregistrée depuis quelques années. Une situation occasionnée par la pêche illicite déplore la responsable des associations féminines de la place. Elisabeth Bitassi, moi, évoque des conséquences, notamment la pauvreté, entraînant l'exploitation et abus sexuels chez les femmes et les enfants.
Vraiment,
c'est difficile parce que nous avons beaucoup d'enfants. Avant, il n'y avait pas une grande population dans la cité, mais actuellement, ils sont très nombreux. Aujourd'hui, ils vont au lac et ils ne vont même pas trouver de poissons. Les femmes n'ont pas de travail, elles attendent seulement les hommes. Toute la nourriture doit venir d'ailleurs, alors que chez nous à Vichumbi, on ne cultive pas. Chaque jour, nous devons acheter de la nourriture alors qu'il n'y a pas de production ni de l'argent. Tout cela amène les femmes à se méconduire avec les enfants et les militaires. Jeff Kambale Mouindo, président de la société civile de Vichumbi, aborde pour sa part l'aspect afflux des déplacés qui rend Vichumbi saturé et sans assistance, dit-il. Rappelons que Vichumbi, tout comme une partie de la chefferie de Bwito, sont toujours contrôlés par l'armée gouvernementale. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et toujours au Nord Kivu, le taux de la tuberculose est en hausse dans la prison centrale Mouzenze de Goma. Information confirmée hier jeudi à Radio Okapi par les responsables de cet établissement carcéral. Ils disent craindre dans les jours à venir la propagation de la maladie à cause de l'exiguïté de la prison au regard du nombre croissant de détenus. Gabriel Ouamenya nous appelle depuis Goma.
Sur plus de 3500 détenus de la prison de Mounzenze, au moins 105 parmi eux souffrent de la tuberculose pulmonaire. La directrice intérimaire de la prison qui livre l'information affirme que seulement 4 malades suivent les soins et sont internés à l'hôpital Sebeka Virunga aux frais de leur famille. Madame Yvette Mouicha ajoute qu'au-delà de la tuberculose, d'autres détenus souffrent de la galte et de la teinte tondante. Elle affirme que toutes ces pathologies réapparaissent au sein de la prison au terme des projets de prise en charge des détenus exécutés par les ONG pourvoyeuses de fonds, notamment les MSF Hollande et les CICR, depuis 3 mois maintenant. Pour parer au plus pressé et pour éviter la propagation de ces maladies au sein de la prison à cause de l'exiguïté qui y règne, la directrice intérimaire de la prison Mounzenze sollicite l'apport d'autres partenaires du gouvernement afin d'épargner et de préserver tant soit peu la santé de plusieurs autres milliers de détenus de la prison. Goma, Gabriel Wameya, Radio Okapi.
Autre chose à présent, c'est le lundi prochain, sauf changement, que le pouvoir des députés nationaux nouvellement élus seront validés. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale affirme en effet avoir reçu les différents rapports des commissions de vérification des pouvoirs et programmes, ce qui vient renforcer la pression sur les membres du gouvernement élus députés et frapper d'incompatibilité de choisir entre fonctions, leur fonction actuelle et le mandat de député en vertu de l'article 108 de la Constitution. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé devrait donc déposer la démission de son gouvernement, tel que demandé par la Cour constitutionnelle. Écoutons plutôt le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis venu rencontrer les 26 commissions qui ont mis mission de vérifier le pouvoir des honorables députés. Beaucoup de commissions ont terminé. D'autres ont déjà déposé les rapports au bureau. Et d'autres sont en train de rédiger les rapports pour les adopter ce soir ou demain matin. Le lundi, nous pourrons avoir une plénière parce que nous aurons tous les rapports des commissions qui ont travaillé sur les vérifications de pouvoir. Alors nous avons trouvé des solutions. Nous avons mis en place une commission qui va se charger de ces dossiers, ainsi que les collègues de Lualaba, où il y a eu un déficit de membres. Nous avons trouvé des solutions et ça a été réglé. Les collègues que nous avons envoyés dans cette commission ont siégé et ils ont terminé les travaux.
Et dans le Tanganyika, les conseillers communaux élus de Kalemi expriment leur inquiétude au sujet de leur installation. Dans un mémorandum adressé au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et déposé hier jeudi à la mairie de Kalemi, ils se disent indignés face à l'attitude d'après eux des autorités de Tanganyika qui tardent à organiser la cérémonie de leur installation. Ainsi, ils sollicitent l'implication de la gouverneure de Tanganyika à ce sujet. On écoute Eric Mirindi, conseiller communal de Kalemi, au micro de Paul Mounanga.
Le collectif de conseillers communaux élus de la ville de Kalemi s'inquiète et s'indigne contre l'attitude que commencent à afficher les autorités provinciales, urbaines et communales censées respecter et obéir à l'instruction du VEPAM en boycottant et en ne s'intéressant même pas de l'installation de ces organes délibérants de leurs communes respectives. En effet, les conseillers communaux de la ville de Kalemi, ayant compris toute la manœuvre dilatoire qui tente à s'aborder l'autorité du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, exige ce qui suit. Que madame le gouverneur de la province du Tanganyika prenne ses responsabilités en chargeant, dans un délai de 24 heures, les chefs du bureau de chaque commune, notamment Kalemi, Lac, Lukuga, de procéder à l'installation effective de nos conseillers communaux conformément à l'esprit de la constitution, de la loi organique et au message d'instruction du VEPM de l'Intérieur.
Notez que le maire de Kalemi rassure que les préparatifs sont en cours pour l'installation des conseillers communaux.
Actualité internationale.
Au Sénégal, l'opposition appelle à la constitution d'un large front réunissant les candidats admis à la présidentielle, les syndicats et les chefs religieux pour faire reculer le président Macky Sall après le report de l'élection à décembre prochain. Selon le gouvernement sénégalais, la présidentielle a été reportée dans le respect de la constitution. Retrait du Mali de la CEDEAO, l'opposition dénonce une décision illégitime et sans consultation. Un choix de la junte au pouvoir qui voulait protester contre les sanctions imposées par l'instance régionale, réclamant un retour rapide des civils au pouvoir. D'autres pays comme le Niger ou le Burkina Faso ont également quitté l'organisation.
L'invité.
Au sud Kivu, toutes les routes nationales se trouvent dans un état de délabrement très avancé. La ville de Bukavu se retrouve isolée à la suite de l'impraticabilité des routes qui relient la ville au reste des territoires. Notre invité, le directeur provincial ad interim de l'Office des routes au sud Kivu, parle des multiples défis infrastructurels. L'ingénieur Alain Mugangu s'entretient à Bukavu avec Jean Kassami.
Monsieur le directeur ad interim, bonjour.
Merci, monsieur le journaliste.
Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 à partir du lycée Wimasson en cours depuis 2 mois. D'aucuns disent que les caniveaux ne rassurent pas, que c'est trop exigu par rapport à la quantité d'eau.
Les travaux évoluent normalement. L'entreprise est en train d'exécuter les travaux d'assainissement, mais également les rechargements, notamment à l'endroit où il y a un affaissement. Ils ont déjà exécuté un certain nombre de caniveaux, notamment au lycée Wimasson, mais également du côté des lycées. Ce n'est qu'après qu'ils verront maintenant les travaux proprement dites, c'est-à-dire la couche de fondation, la couche de base, mais aussi la couche de roulement. Moi, je ne partage pas cet avis, tout simplement parce qu'il y aura des ouvrages que l'entreprise va construire, des ouvrages prévus pour réduire la quantité d'eau qui normalement doit aller vers la place du 24. Il y a des endroits où on prévoit des passages pour permettre à ce que les eaux ne continuent pas. Et je n'ai jamais assisté à des débordements des eaux. Et donc, moi, j'estime que ça tient. Seulement, il y a des petites observations pour essayer de consolider les parois. Mais en termes de dimension, je pense que ça tient.
Ça fait 2 mois depuis que les travaux ont démarré. Aujourd'hui, les usagers disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont ça évolue. Quelles sont les raisons, à votre avis, monsieur le directeur, qui font que les travaux n'avancent pas comme d'aucuns le souhaitent?
Nous sommes pendant la saison pluvieuse. Et pendant la saison pluvieuse, les intempéries ralentissent un peu le rythme du travail. Mais aussi, il y a des saisons qui sont encore en étude, notamment à l'endroit du lycée Wima, où il y a un mouvement de terre, la route s'affaisse à tout moment. Nous sommes ensemble avec l'entreprise et les bureaux techniques de contrôle. Nous sommes en train d'étudier comment trouver une solution durable. Il ne faudrait pas que nous puissions travailler et que dans 2 jours, les travaux définitifs puissent être endommagés. Et donc, oui, on peut croire que ça évolue lentement, mais ce sont des travaux de modernisation. Et nous, nous savons, l'entreprise va poursuivre parce qu'ils ont quand même les moyens pour ces travaux. Je dirais que pour le moment, l'entreprise n'a pas encore reçu la totalité des fonds, mais ils ont un acompte pour démarrer les travaux. Ensemble avec les bureaux techniques de contrôle, nous allons commencer à faire des états d'avancement pour permettre à l'entreprise de demander les compléments de fonds.
C'est qui finance les travaux? C'est le gouvernement central, provincial ou un autre bailleur?
Les travaux ont été financés par le gouvernement central, mais sous les plaidoyers du gouverneur de province. C'est en fonction de l'évolution des travaux qu'on paye l'entreprise.
Notre entretien a 2 dimensions. Nous avons commencé par l'axe lycée Wima-Walungu, en passant par Mugogo sur la RN2. Mais toute la province connaît les problèmes de routes qui nécessitent des travaux de réhabilitation.
Effectivement, nous sommes déployés sur plusieurs axes. Et actuellement, nous intervenons à Uvira-Baraka, à Shabunda, où nous sommes en train de dégager des éboulements, à Mwenga, où nous sommes en train de supprimer un bourbier de 6 km qui constituait un casse-tête pour les usagers, où il y avait plus de 200 camions bloqués à cause de l'impraticabilité de la route. Nous sommes en train de travailler. Mais à part ça, nous sommes aussi sur la route de Goma, où nous avons intervenu entre Kavumu et Kabamba. Mais aussi, nous sommes dans d'autres territoires sur des routes d'intérêt provincial, notamment à Ijui, où nous sommes en train d'ouvrir la route et essayer de relier Ijui Nord à Ijui Sud, mais également à Kaziba, où nous tentons descendons vers Louindja. Toutes les routes que nous réhabilitons, ce sont des routes en terre et nous faisons des réhabilitations partielles.
Alain Mugangu, nous vous disons merci.
C'était notre invité, l'ingénieur Alain Mugangu, directeur intérimaire de l'Office des routes au Sud Kivu, qui était interrogé à Bukavu par Jean Kassami. Fin de ce journal qui a été coordonné par Jacques-Yves Moulima et mis en onde par Pierre Diassinois. Infiniment merci à vous de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.